Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir végétarien en 90 jours. Je suis Alexandra Balik, la diététicienne nutritionniste du blog. Dans cet épisode, je vais vous parler du gluten. Est-ce qu'il faut arrêter d'en consommer? Dans quel aliment est-ce qu'on le trouve? Quelles sont les alternatives? Est-ce que je suis concernée par une problématique avec le gluten? Donc l'hyperperméabilité intestinale, la maladie cœliaque. Bonne écoute! De nos jours, le gluten fait beaucoup parler de lui. C'est à s'y perdre dans toutes les communications. Il est souvent incriminé quand on a mal au ventre, mais cela est beaucoup plus complexe. L'éviction du gluten peut être assez lourde au quotidien, donc pourquoi s'ajouter des contraintes si cela ne provient pas du gluten? En revanche, pour certaines personnes, une problématique avec le gluten a bien été diagnostiquée médicalement par un médecin. On peut parler d'intolérance au gluten, de maladie cœliaque, voire de sensibilité au gluten. Chez le végétarien ou le futur végétarien, la question peut se poser car les céréales sont très présentes dans l'alimentation. Dans ce podcast, je vais vous présenter le gluten, les problématiques qu'il peut engendrer et surtout vous donner des alternatives. Le gluten, qu'est-ce que c'est? Il fait partie de la famille des protéines et il est présent naturellement dans certaines céréales. C'est pour cela que quand on mange des pâtes sans gluten, on a moins d'apport en protéines qu'avec des pâtes avec du gluten, c'est-à-dire au blé classique. Le gluten est formé de deux parties. Pour le blé, on parle de gliadine et gluténine. Ces deux types de protéines sont intéressantes pour la fabrication du pain et des produits à pâte levée. La gliadine permet à la pâte de s'étendre et la gluténine permet à la pâte d'être élastique. C'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes résultats entre une pâte avec gluten et une pâte sans gluten. Aujourd'hui, les céréales que l'on trouve ont été modifiées et contiennent plus de gluten. Les industriels en ajoutent comme additif dans les produits à des fins technologiques. Épaississant, liant, augmente la force pour une meilleure levée de la pâte et plus rapidement. Où trouver le gluten? Donc on en trouve dans le blé, l'avoine, le seigle, l'épeautre, le petit épeautre, l'orge, le camut et dans le triticale. Bien sûr, il y a du gluten dans tous les produits dérivés de ces céréales et dans tous les produits qui en contiennent. Par exemple, dans le pain, les gâteaux, les biscuits, les biscottes, les pâtes à tarte ou encore le seitan. Il faut faire d'autant plus attention aux produits de l'industrie agroalimentaire qui peuvent contenir du gluten et que vous retrouverez sous différentes appellations, comme gélifiant, amidon, amidon de blé, matière amylacée, protéines végétales, acides aminés végétaux, liants protéiques végétaux, farine, malt, extrait de malt. Est-ce que cela provient du gluten? Vous avez mal au ventre, des désordres digestifs et on vous a dit, vous avez lu que le gluten ce n'est pas bon pour l'organisme. Il est vrai que les farines que l'on nous propose aujourd'hui peuvent contenir plus de gluten, mais êtes-vous sûr que cela provient du gluten? En effet, on peut retrouver par exemple dans le blé du fructane qui est un FODMAP, donc Fermentable Oligo Dimonosaccharide and Polyol, c'est-à-dire un sucre qui fermente dans le côlon. Et si vous êtes sensible, il se peut que vous ayez des symptômes digestifs. Afin de vous éviter des trop grosses contraintes d'un point de vue alimentaire, il est important de vous faire diagnostiquer par un médecin. Vous avez peut-être le syndrome de l'intestin irritable, donc anciennement appelé colopathie fonctionnelle, ou une autre problématique et qui peut-être ne nécessitera pas de bannir le gluten et tous les produits qui en contiennent car cela est très contraignant. Si vous souhaitez vous faire diagnostiquer, il est important de ne pas arrêter le gluten au risque d'avoir des examens négatifs. Ai-je la maladie cœliaque? C'est une maladie auto-immune où le corps va produire des anticorps pour s'attaquer aux constituants du gluten. Cette réaction du système immunitaire va s'attaquer à la personne. Elle touche 1 à 3% de la population en Europe et chez les personnes souffrant de la maladie cœliaque, la consommation de gluten entraîne une atrophie villositaire. Cela signifie que la muqueuse intestinale se détruit petit à petit tant que vous n'arrêtez pas de consommer des produits contenant du gluten. Cela a des conséquences sur l'absorption des nutriments dans votre intestin avec à la clé un risque de carence en fer, en vitamine B12, en calcium, etc. Cette maladie n'est pas à confondre avec l'allergie au blé où ce n'est pas le même mécanisme. L'allergie peut entraîner des œdèmes, des éruptions cutanées, etc. Chez les enfants, la maladie cœliaque, en plus d'entraîner des désordres digestifs, impacte la croissance en lien avec les carences consécutives à la mauvaise absorption des nutriments. Chez l'adulte, cela entraîne un amaigrissement, des problèmes digestifs de type diarrhée et ou constipation, des ballonnements, des troubles en lien avec les carences comme l'ostéoporose, les crampes. Le traitement de cette maladie consiste à ne plus manger de produits contenant du gluten. Pour les personnes dont le diagnostic est avéré de maladie cœliaque, donc confirmé par biopsie digestive, depuis le 25 mars 2004, vous pouvez vous faire rembourser une partie des produits sans gluten par la Sécurité sociale. Les produits concernés possèdent un logo spécifique, c'est un épi barré. Voyons maintenant l'hypersensibilité au gluten. Certaines personnes n'ont ni d'allergie au blé, ni à la maladie cœliaque, mais présentent des troubles digestifs s'ils consomment des produits contenant du gluten. Il n'y a pas aujourd'hui d'explication scientifique à cette problématique. Cela peut être dû à un problème de perméabilité de la barrière intestinale. En effet, il peut impacter cette perméabilité et l'hyperperméabilité peut avoir d'autres causes que la consommation de gluten. Si la barrière intestinale n'est plus perméable, il y a un risque que des éléments indésirables passent la barrière et entraînent des troubles digestifs, de l'inflammation, des maladies chroniques ou encore des maladies auto-immunes. Pour les personnes concernées, il existe une association pour vous aider. Donc, si vous êtes concerné et que vous ne pouvez pas consommer de gluten, un professionnel de santé et de la nutrition pourra vous aider à organiser votre alimentation et à décrypter les emballages alimentaires pour détecter le gluten caché. Donc, ce professionnel, c'est un diététicien ou une diététicienne nutritionniste. Il existe également donc une association, l'AFDIAG, qui est l'Association française des intolérants au gluten. Elle fournit de nombreuses informations pour vous aider au quotidien pour les personnes souffrant de maladies cœliaques. Voyons les produits sans gluten et l'ultra-transformation. En effet, j'attire votre attention sur les produits sans gluten que l'on peut trouver dans les magasins. Pour beaucoup, ce sont des produits ultra-transformés qui contiennent de nombreux additifs. Il est donc important de bien lire les étiquettes. Rien ne vaut le fait maison. Concernant les alternatives sans gluten, pour ce qui est des féculents, vous pouvez vous tourner vers les pommes de terre, le sarrasin, le quinoa, etc. Les fruits et légumes n'en contiennent pas, ni le fromage, le beurre, le lait, les œufs, le soja, le tofu, le tempeh, les légumineuses, les huiles, les graines oléagineuses, le riz, le maïs, le millet, les épices, les herbes aromatiques, etc. Il faut tout de même bien lire les étiquettes des emballages alimentaires, notamment sur les pots d'épices. Certains ajoutent de l'amidon et celui-ci risque de contenir du gluten s'il provient du blé. Attention à la chapelure aussi. Pour les farines, vous pouvez utiliser de la farine de riz, de maïs, de sarrasin, de quinoa, de millet, de châtaigne, de lupin, d'orge, d'amarante. Quelques idées de recettes sans gluten. Donc on peut se faire un muesli maison avec des flocons de sarrasin ou encore des flocons de millet, des amandes, des graines de tournesol, des raisins secs. On peut se faire une salade de pois chiches à la feta, une salade de quinoa aux légumes grillés, une tarte aux épinards à la ricotta. Alors là, pour la pâte, il faudra 150 g de farine de riz, 100 g de polenta, ou encore appelée semoule de maïs, 125 g de beurre, 25 g de parmesan, un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Risotto à la butternut rôtie, nouilles de riz au poivron, spaghettis de légumes secs bolognaise végétarienne, un pain au maïs avec une base de farine de riz à 50% et de farine de maïs à 50%, cookies aux pépites de chocolat à la farine de riz, un gâteau yaourt à la farine de riz et châtaigne. Et vous, quelles sont vos recettes favorites sans gluten? Partagez avec nous votre expérience pour en faire profiter tous nos lecteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas nous louper nos prochains articles et nos prochains podcasts. À bientôt pour un nouveau podcast!